Honoré de Balzac, splendeurs et misères des courtisanes. Première partie, comment aiment les filles. En 1824, au dernier bal de l'opéra, plusieurs masques furent frappés de la beauté d'un jeune homme qui se promenait dans les corridors et dans le foyer, avec l'allure des gens en quête d'une femme retenue au logis par des circonstances imprévues. Le secret de cette démarche, tour à tour indolente et pressée, n'est connue que des vieilles femmes et de quelques flâneurs émérites. Dans cet immense rendez-vous, la foule observe peu la foule. Les intérêts sont passionnés. Le désœuvrement lui-même est préoccupé. Le jeune dandy était si bien absorbé par son inquiète recherche qu'il ne s'apercevait pas de son succès. Les exclamations railleusement admiratives de certains masques, les étonnements sérieux, les mordants lazzi, les plus douces paroles, il ne les entendait pas, il ne les voyait point. Quoique sa beauté le classât parmi ces personnages exceptionnels qui viennent au bal de l'opéra pour y avoir une aventure et qui l'attendent comme on attendait un coup heureux à la roulette quand Frascati vivait, il paraissait bourgeoisement sûr de sa soirée. Il devait être le héros d'un de ces mystères à trois personnages qui composent tout le bal masqué de l'opéra, et connu seulement de ceux qui y jouent leur rôle. Car, pour les jeunes femmes qui viennent afin de pouvoir dire « j'ai vu », pour les gens de province, pour les jeunes gens inexpérimentés, pour les étrangers, l'opéra doit être alors le palais de la fatigue et de l'ennui. Pour eux, cette foule noire, lente et pressée, qui va, vient, serpente, tourne, retourne, monte, descend, et qui ne peut être comparée qu'à des fourmis sur leur tas de bois, n'est pas plus compréhensible que la bourse pour un paysan bas-breton qui ignore l'existence du grand livre. À de rares exceptions près, à Paris, les hommes ne se masquent point. Un homme en domino paraît ridicule. En ceci, le génie de la nation éclate. Les gens qui veulent cacher leur bonheur peuvent aller au bal de l'opéra sans y venir. Et les masques, absolument forcés d'y entrer, en sortent aussitôt. Un spectacle des plus amusants est l'encombrement que produit à la porte, dès l'ouverture du bal, le flot des gens qui s'échappent aux prises avec ceux qui y montent. Donc, les hommes masqués sont des maris jaloux, qui viennent espionner leurs femmes, ou des maris en bonne fortune, qui ne veulent pas être espionnés par elles. Deux situations également moquables. Or le jeune homme était suivi, sans qu'il le sût, par un masque assassin, gros et court, roulant sur lui-même comme un tonneau. Pour tout habitué de l'opéra, ce domino trahissait un administrateur, un agent de change, un banquier, un notaire, un bourgeois quelconque en soupçon de son infidèle. En effet, dans la très haute société, personne ne court après d'humiliants témoignages. Déjà plusieurs masques s'étaient montrés en riant ce monstrueux personnage. D'autres l'avaient apostrophé. Quelques jeunes s'étaient moqués de lui. Sa carrure et son maintien annonçaient un dédain marqué pour ses traits sans portée. Il allait tout le mener le jeune homme, comme va un sanglier poursuivi, qui ne se soucie ni des balles qui sifflent à ses oreilles, ni des chiens qui aboient après lui. Quoiqu'au premier abord, le plaisir et l'inquiétude aient pris la même livrée, l'illustre robe noire vénitienne, et que tout soit confus au bal de l'opéra, les différents cercles dont se compose la société parisienne se retrouvent, se reconnaissent et s'observent. Il y a des notions si précises pour quelques initiés, que ce grimoire d'intérêt est lisible comme un roman qui serait amusant. Pour les habitués, cet homme ne pouvait donc pas être en bonne fortune. Il eût infailliblement porté quelques marques convenues, rouges, blanches ou vertes, qui signalent les bonheurs apprêtés de longue main. S'agissait-il d'une vengeance? En voyant le masque, suivant de si près un homme en bonne fortune, quelques désœuvrés revenaient au beau visage, sur lequel le plaisir avait mis sa divine auréole. Le jeune homme intéressait. Plus il allait, plus il réveillait de curiosité. Tout en lui signalait d'ailleurs les habitudes d'une vie élégante. suivant une loi fatale de notre époque, il existe peu de différence, soit physique, soit morale, entre le plus distingué, le mieux élevé des fils d'un duc et père, et ce charmant garçon, que naguère la misère étreignait de ses mains de fer au milieu de Paris. La beauté, la jeunesse, pouvaient masquer chez lui de profonds abîmes, comme chez beaucoup de jeunes gens qui veulent jouer un rôle à Paris sans posséder le capital nécessaire à leurs prétentions, et qui chaque jour risquent le tout pour le tout, en sacrifiant au dieu le plus courtisé dans cette cité royale, le hasard. Néanmoins, sa mise, ses manières étaient irréprochables. Il foulait le parquet classique du foyer en habitué de l'opéra. Qui n'a pas remarqué que là, comme dans toutes les zones de Paris, il est une façon d'être qui révèle ce que vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez et ce que vous voulez. Le beau jeune homme, ici l'on peut se retourner pour le voir, dit un masque en qui les habitués du bal reconnaissaient une femme comme il faut. Vous ne vous le rappelez pas ? Lui répondit l'homme qui lui donnait le bras. Madame du Châtelet vous l'a cependant présenté. Quoi ? C'est ce fils d'apothicaire de qui elle s'était amourachée, qui s'est fait journaliste, l'amant de mademoiselle Coralie ? Je le croyais tombé trop bas pour jamais pouvoir remonter, et je ne comprends pas comment il peut reparaître dans le monde de Paris, dit le comte Sixte du Châtelet. Il a un air de prince, dit le masque, et ce n'est pas cette actrice avec laquelle il vivait qui le lui aura donné. Ma cousine, qui l'avait deviné, n'a pas su le débarbouiller. Je voudrais bien connaître la maîtresse de ce Sargine. Dites-moi quelque chose de sa vie qui puisse me permettre de l'intriguer. » Ce couple qui suivait le jeune homme en chuchotant fut alors particulièrement observé par le masque aux épaules carrées. « Cher monsieur Chardon, dit le préfet de la Charente en prenant le dandy par le bras, laissez-moi vous présenter une personne qui veut renouer connaissance avec vous. » « Cher comte Châtelet, répondit le jeune homme, cette personne m'a appris combien il était ridicule le nom que vous me donnez. Une ordonnance du roi m'a rendu celui de mes ancêtres maternels, les Rubempré. Quoique les journaux aient annoncé ce fait, il concerne un si pauvre personnage que je ne rougis point de le rappeler à mes amis, à mes ennemis et aux indifférents. Vous vous classerez où vous voudrez, mais je suis certain que vous ne désapprouverez point une mesure qui me fut conseillée par votre femme, quand elle n'était encore que madame de Bargeton. » Cette jolie épigramme, qui fit sourire la marquise, fit éprouver un tressaillement nerveux au préfet de la Charente. « Vous lui direz, ajouta Lucien, que maintenant je porte de gueule au taureau furieux d'argent dans le pré de Sinople. »« Furieux d'argent, répéta Châtelet. Madame la marquise vous expliquera, si vous ne le savez pas, pourquoi ce vieil écusson est quelque chose de mieux que la clé de Chambellan et les abeilles d'or de l'Empire qui se trouvent dans le vôtre, au grand désespoir de madame Châtelet, née Nègrepelisse d'Espard, dit vivement Lucien. Puisque vous m'avez reconnu, je ne puis plus vous intriguer, et je ne saurais vous exprimer à quel point vous m'intriguez, lui dit à voix basse la marquise d'Espard, tout étonnée de l'impertinence et de l'aplomb à qui par l'homme qu'elle avait jadis méprisé. « Permettez-moi donc, madame, de conserver la seule chance que j'ai d'occuper votre pensée en restant dans cette pénombre mystérieuse, » dit-il avec le sourire d'un homme qui ne veut pas compromettre un bonheur sûr. La marquise ne put réprimer un petit mouvement sec en se sentant, suivant une expression anglaise, coupée par la précision de Lucien. « Je vous fais mon compliment sur votre changement de position, » dit le comte du Châtelet à Lucien. « Et je le reçois comme vous me l'adressez, » répliqua Lucien, en saluant la marquise avec une grâce infinie. « Le fat, » dit à voix basse le comte à madame d'Espard. Il a fini par conquérir ses ancêtres. Chez les jeunes gens, la fatuité, quand elle tombe sur nous, annonce presque toujours un bonheur très haut situé, car entre vous autres, elle annonce la mauvaise fortune. Aussi voudrais-je connaître celle de nos amis qui a pris ce bel oiseau sous sa protection. Peut-être aurais-je alors la possibilité de m'amuser ce soir. Mon billet anonyme est sans doute une méchanceté préparée par quelque rival, car il y est question de ce jeune homme. Son impertinence lui aura été dictée. Espionnez-le. Je vais prendre le bras du duc de Navarin. Vous saurez bien me retrouver. » Au moment où Madame d'Espard allait aborder son parent, le masque mystérieux se plaça entre elle et le duc pour lui dire à l'oreille « Lucien vous aime. Il est l'auteur du billet. Votre préfet est son plus grand ennemi. Pouvait-il s'expliquer devant lui ?» L'inconnu s'éloigna, laissant Madame d'Espard en proie à une double surprise. La marquise ne savait personne au monde capable de jouer le rôle de ce masque. Elle craignit un piège, alla s'asseoir et se cacha. Le comte Sixte du Châtelet, à qui Lucien avait retranché son « dû » ambitieux, avec une affectation qui sentait une vengeance longtemps rêvée, suivit à distance ce merveilleux dandy. Il rencontra bientôt un jeune homme, auquel il crut pouvoir parler à cœur ouvert. « Eh bien, Rastignac, avez-vous vu Lucien ? Il a fait peau neuve. Si j'étais aussi joli garçon que lui, je serais encore plus riche que lui, » répondit le jeune élégant, d'un ton léger mais fin, qui exprimait une raillerie attique. « Non, » lui dit à l'oreille le gros masque, en lui rendant 1000 railleries pour une, par la manière dont il accentua le monosyllabe. Rastignac, qui n'était pas homme à dévorer une insulte, resta comme frappé de la foudre, et se laissa mener dans l'embrasure d'une fenêtre par une main de fer qu'il lui fut impossible de secouer. Jeune coq, sorti du poulailler de maman Vauquer, vous à qui le cœur a failli pour saisir les millions du papa Taillefer, quand le plus fort de l'ouvrage était fait. Sachez, pour votre sûreté personnelle, que si vous ne vous comportez pas avec Lucien comme avec un frère que vous aimeriez, vous êtes dans nos mains sans que nous soyons dans les vôtres. Silence et dévouement, ou j'entre dans votre jeu pour y renverser vos quilles. Lucien de Rubempré est protégé par le plus grand pouvoir d'aujourd'hui, l'Église. Choisissez entre la vie ou la mort. Votre réponse. » Rastignac eut le vertige, comme un homme endormi dans une forêt et qui se réveille à côté d'une lionne affamée. Il eut peur, mais sans témoin. Les hommes les plus courageux s'abandonnent alors à la peur. Il n'y a que lui pour savoir et pour oser, se dit-il à lui-même. Le masque lui serra la main pour l'empêcher de finir sa phrase. « Agissez comme si c'était lui, » dit-il. Rastignac se conduisit alors comme un millionnaire sur la grande route, en se voyant mis en joue par un brigand. Il capitula. « Mon cher comte, » dit-il à Châtelet vers lequel il revint, « si vous tenez à votre position, traitez Lucien de Rubempré comme un homme que vous trouverez un jour placé beaucoup plus haut que vous ne l'êtes. » Le masque laissa échapper un imperceptible geste de satisfaction et se remit sur la trace de Lucien. « Mon cher, vous avez bien rapidement changé d'opinion sur son compte, » répondit le préfet, justement étonné. « Aussi rapidement que ceux qui sont au centre et qui votent avec la droite, » répondit Rastignac à ce préfet député dont la voix manquait depuis peu de jours au ministère. « Est-ce qu'il y a des opinions aujourd'hui ? Il n'y a plus que des intérêts, » répliqua des Lupeaux qui les écoutaient. « De quoi s'agit-il ? Du sieur de Rubempré, que Rastignac veut me donner pour un personnage, » dit le député au secrétaire général. « Mon cher comte, » lui répondit des Lupeaux d'un air grave, « Monsieur de Rubempré est un jeune homme du plus grand mérite, et si bien appuyé que je me croirais très heureux de pouvoir renouer connaissance avec lui. » « Le voilà qui va tomber dans le guépier des roués de l'époque, » dit Rastignac. Les trois interlocuteurs se tournèrent vers un coin où se tenaient quelques beaux esprits, des hommes plus ou moins célèbres et plusieurs élégants. Ces messieurs mettaient en commun leurs observations, leurs bons mots et leurs médisances, en essayant de s'amuser ou en attendant quelque amusement. Dans cette troupe si bizarrement composée, se trouvaient des gens avec qui Lucien avait eu des relations mêlées de procédés ostensiblement bons et de mauvais services cachés. « Eh bien, Lucien, mon enfant, mon cher amour, Nous voilà rempaillés, rafistolés. D'où venons-nous? Nous avons donc remonté sur notre bête, à l'aide des cadeaux expédiés du boudoir de Florine. Bravo, mon gars, lui dit Blondet, en quittant le bras de Finot, pour prendre familièrement Lucien par la taille et le serrer contre son cœur. Andoche Finot était le propriétaire d'une revue où Lucien avait travaillé presque gratis, et que Blondet enrichissait par sa collaboration, par la sagesse de ses conseils et la profondeur de ses vues. Finot et Blondet personnifiaient Bertrand et Raton, à cette différence près que le chat de La Fontaine finit par s'apercevoir de sa duperie, et que tout en se sachant dupé, Blondet servait toujours Finot. Ce brillant condottière de plumes devait en effet être pendant longtemps esclave. Finot cachait une volonté brutale sous des dehors lourds, sous les pavots d'une bêtise impertinente, frotté d'esprit comme le pain d'un manœuvre est frotté d'ail. Il savait engranger ce qu'il glanait, les idées et les écus, à travers les champs de la vie dissipée que mènent les gens de lettres et les gens d'affaires politiques. Blondet, pour son malheur, avait mis sa force à la solde de ses vices et de sa paresse. Toujours surpris par le besoin, il appartenait au pauvre clan des gens éminents qui peuvent tout pour la fortune d'autrui, sans rien pouvoir pour la leur. Des Aladins qui se laissent emprunter leurs lampes. Ces admirables conseillers ont l'esprit perspicace et juste quand il n'est pas tiraillé par l'intérêt personnel. Chez eux, c'est la tête et non le bras qui agit. De là, le décousu de leurs mœurs, et de là le blâme dont les accablent les esprits inférieurs. Blondet partageait sa bourse avec le camarade qu'il avait blessé la veille. Il dînait, trinquait, couchait avec celui qui l'égorgerait le lendemain. Ces amusants paradoxes justifiaient tout. En acceptant le monde entier comme une plaisanterie, il ne voulait pas être pris au sérieux. Jeune, aimé, presque célèbre, heureux, il ne s'occupait pas, comme Finot, d'acquérir la fortune nécessaire à l'homme âgé. Le courage le plus difficile est peut-être celui dont avait besoin Lucien en ce moment pour couper Blondet, comme il venait de couper Madame d'Espard et Châtelet. Malheureusement, chez lui, les jouissances de la vanité gênaient l'exercice de l'orgueil, qui certes est le principe de beaucoup de grandes choses. Sa vanité avait triomphé dans sa précédente rencontre. Il s'était montré riche, heureux et dédaigneux, avec deux personnes qui jadis l'avaient dédaigné pauvre et misérable. Mais un poète pouvait-il, comme un diplomate vieilli, rompre en visière à deux soi-disant amis qu'il avait accueillis dans sa misère, chez lesquels il avait couché durant les jours de détresse? Finot, Blondet et lui s'étaient avilis de compagnie. Ils avaient roulé dans des orgies qui ne dévoraient pas que l'argent de leurs créanciers. Comme ces soldats qui ne savent pas placer leur courage, Lucien fit alors ce que font bien des gens dans Paris. Il compromit de nouveau son caractère en acceptant une poignée de main de Finot, en ne se refusant pas à la caresse de Blondet. Quiconque a trempé dans le journalisme, ou y trempe encore, est dans la nécessité cruelle de saluer les hommes qu'il méprise, de sourire à son meilleur ennemi, de pactiser avec les plus fétides bassesses, de se salir les doigts en voulant payer ses agresseurs avec leur monnaie. On s'habitue à voir faire le mal, à le laisser passer. On commence par l'approuver, on finit par le commettre. À la longue, l'âme, sans cesse maculée par de honteuses et criminelles transactions, s'amoindrit. Le ressort des pensées nobles se rouille. Les gonds de la banalité s'usent et tournent d'eux-mêmes. Les alcestes deviennent des filintes. Les caractères se détrempent. Les talents s'abâtardissent. La foi dans les belles œuvres s'envole. Tel qui voulait s'enorgueillir de ses pages se dépense en de tristes articles que sa conscience lui signale tôt ou tard comme autant de mauvaises actions. On était venu, comme Lousteau, comme Vernou, pour être un grand écrivain. On se trouve un impuissant folliculaire. Aussi, ne saurait-on trop honorer les gens chez qui le caractère est à la hauteur du talent, les d'Arthez, qui savent marcher d'un pied sûr à travers les écueils de la vie littéraire. Lucien ne sut rien répondre au patelinage de Blondet, dont l'esprit exerçait d'ailleurs sur lui d'irrésistibles séductions, qui conservait l'ascendant du corrupteur sur l'élève, et qui d'ailleurs était bien posé dans le monde par sa liaison avec la comtesse de Montcornet. « Avez-vous hérité d'un oncle ?» lui dit Finot d'un air railleur. « J'ai mis, comme vous, les sceaux en coupe réglée, » lui répondit Lucien sur le même ton. « Monsieur aurait une revue, un journal quelconque ?» répondit Andoche Finot, avec la suffisance impertinente que déploie l'exploitant envers son exploité. « J'ai mieux, » répliqua Lucien, dont la vanité blessée par la supériorité qu'affectait le rédacteur en chef lui rendit l'esprit de sa nouvelle position. « Et qu'avez-vous, mon cher ?»« J'ai un parti. »« Il y a le parti Lucien ?» dit en souriant vers nous. « Finot, te voilà distancé par ce garçon-là. Je te l'ai prédit, Lucien a du talent. Tu ne l'as pas ménagé, tu l'as roué. Repens-toi, gros butor !» reprit Blondet. Fin comme le musc, Blondet vit plus d'un secret dans l'accent, dans le geste, dans l'air de Lucien. Tout en l'adoucissant, il sut donc resserrer par ses paroles la gourmette de la bride. Il voulait connaître les raisons du retour de Lucien à Paris, ses projets, ses moyens d'existence. « À genoux, devant une supériorité que tu n'auras jamais, quoi que tu sois, Finot !» reprit-il. « Admets, monsieur, et sur le champ, au nombre des hommes forts à qui l'avenir appartient. Il est des nôtres, spirituel et beau. Ne doit-il pas arriver par tes quibuscumque viis ?» Le voilà dans sa bonne armure de Milan, avec sa puissante dague à moitié tirée et son pennon arboré. « Tudieu, Lucien, où donc as-tu volé ce joli gilet ? Il n'y a que l'amour pour savoir trouver de pareilles étoffes. Avons-nous un domicile ? Dans ce moment, j'ai besoin de savoir les adresses de mes amis. Je ne sais où coucher. Finot m'a mis à la porte pour ce soir, sous le vulgaire prétexte d'une bonne fortune. « Mon cher, répondit Lucien, j'ai mis en pratique un axiome avec lequel on est sûr de vivre tranquille. Fouguer, latter, taquer. Je vous laisse. Mais je ne te laisse pas, que tu ne t'acquittes envers moi d'une dette sacrée. Ce petit souper, hein ? Dit Blondet, qui donnait un peu trop dans la bonne chair et qui se faisait traiter quand il se trouvait sans argent. Quel souper ? Reprit Lucien, en laissant échapper un geste d'impatience. « Tu ne te souviens pas. Voilà où je reconnais la prospérité d'un ami. Il n'a plus de mémoire. Il sait ce qu'il nous doit. Je suis garant de son cœur, » reprit Finot, en saisissant la plaisanterie de Blondet. « Rastignac, » dit Blondet, en prenant le jeune élégant par le bras, au moment où il arrivait en haut du foyer et auprès de la colonne où se tenaient les soi-disant amis. « Il s'agit d'un souper. Vous serez des nôtres. À moins que monsieur, reprit-il sérieusement en montrant Lucien, ne persiste à nier une dette d'honneur. Il le peut. Monsieur de Rubempré, je le garantis, en est incapable, dit Rastignac, qui pensait à toute autre chose qu'à une mystification. Voilà Bixiou, s'écria Blondet. Il en sera. Rien de complet sans lui. Sans lui, le vin de champagne m'empâte la langue. Je trouve tout fade, même le piment des épigrammes. Mes amis, dit Bixiou, je vois que vous êtes réunis autour de la merveille du jour. Notre Lucien recommence les métamorphoses d'Ovide. De même que les dieux se changeaient en de singuliers légumes et autres pour séduire des femmes, il a changé le chardon en gentilhomme pour séduire. Quoi ? Charles X ? Mon petit Lucien, dit-il en le prenant par un bouton de son habit. « Un journaliste qui passe grand seigneur mérite un joli charivari. » À leur place, dit l'impitoyable railleur, en montrant Finot et Vernoux, « je t'entamerai dans leur petit journal. Tu leur rapporterais une centaine de francs, 10 colonnes de bons mots. »« Bixiou, dit Blondet, un amphitryon nous est sacré 24 heures auparavant et 12 heures après la fête. Notre illustre ami nous donne à souper. » Comment, comment ? Reprit Bixiou. Mais quoi de plus nécessaire que de sauver un grand nom de l'oubli, que de doter l'indigente aristocratie d'un homme de talent. Lucien, tu as l'estime de la presse, de laquelle tu étais le plus bel ornement, et nous te soutiendrons. Finot, un entrefilet au premier Paris. Blondet, une tartine insidieuse à la quatrième page de ton journal. Annonçons l'apparition du plus beau livre de l'époque, L'Archer de Charles IX. Supplions Doria de nous donner bientôt les marguerites, ces divins sonnets du Pétrarque français. Portons notre ami sur le pavois de papier timbré qui fait et défait les réputations. Si tu veux sa souper, dit Lucien à Blondet, pour se défaire de cette troupe qui menaçait de se grossir, il me semble que tu n'avais pas besoin d'employer l'hyperbole et la parabole avec un ancien ami, comme si c'était à nier. À demain soir, chez Lointier, dit-il vivement, en voyant venir une femme vers laquelle il s'élança. Ho, ho, ho ! Dit Bixio sur trois tons, et d'un air railleur, en paraissant reconnaître le masque au devant duquel allait Lucien. Ceci mérite confirmation. Et il suivit le joli couple, le devança, l'examina d'un œil perspicace, et revint à la grande satisfaction de tous ses envieux intéressés, à savoir d'où provenait le changement de fortune de Lucien. Mes amis, vous connaissez de longue main la bonne fortune du sire de Rubempré, leur dit Bixiou. C'est l'ancien rat de Delupeau. L'une des perversités maintenant oubliées, mais en usage au commencement de ce siècle, était le luxe des rats. Un rat, mot déjà vieilli, s'appliquait à un enfant de 10 à 11 ans, comparse à quelques théâtres, surtout à l'opéra, que les débauchés formaient pour le vice et l'infamie. Un rat était une espèce de page infernale, un gamin femelle, à qui se pardonnaient les bons tours. Le rat pouvait tout prendre. Il fallait s'en défier, comme d'un animal dangereux. Il introduisait dans la vie un élément de gaieté, comme jadis les scapins, les sganarelles et les frontins dans l'ancienne comédie. Un rat était trop cher. Il ne rapportait ni honneur, ni profit, ni plaisir. La mode des rats passa si bien qu'aujourd'hui peu de personnes savaient ce détail intime de la vie élégante avant la Restauration, jusqu'au moment où quelques écrivains se sont emparés du rat comme d'un sujet neuf. Comment Lucien, après avoir eu Coralie tuée sous lui, nous ravirait la torpille ? Dit Blondet. En entendant ce nom, le masque aux formes athlétiques laissa échapper un mouvement qui, bien que concentré, fut surpris par Rastignac. « Ce n'est pas possible, » répondit Finot. « La torpille n'a pas un liard à donner. Elle a emprunté, m'a dit Nathan, 1 000 francs à Florine. »« Oh, messieurs, messieurs, » dit Rastignac, en essayant de défendre Lucien contre de si odieuses imputations. « Eh bien, » s'écria Vernou, « l'ancien entretenu de Coralie est-il donc si bégueule ?»« Oh, ces 1 000 francs-là, » dit Bixiou, me prouve que notre ami Lucien vit avec la torpille. Quelle perte irréparable fait l'élite de la littérature, de la science, de l'art et de la politique, dit Blondet. La torpille est la seule fille de joie en qui s'est rencontrée l'étoffe d'une belle courtisane. L'instruction ne l'avait pas gâtée. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle nous aurait compris. Nous aurions doté notre époque d'une de ces magnifiques figures aspasiennes sans lesquelles il n'y a pas de grand siècle. Voyez, comme la Dubarry va bien au XVIIIe siècle, Ninon de l'Enclos au XVIIe, Marion de Lorme au XVIe, Impéria au XVe, Flora à la République romaine, qu'elle fit son héritière, et qui put payer la dette publique avec cette succession. Que serait Horace sans Lydie, Tibulle sans Délie, Catulle sans Lesbie, Properce sans Cinti, Démétrius sans l'ami qui fait aujourd'hui sa gloire. Blondet, parlant de Démétrius dans le foyer de l'opéra, me semble un peu trop débat, dit Bixiou à l'oreille de son voisin. Et sans toutes ces reines, que serait l'empire des Césars, disait toujours Blondet. Laïs, Rhodope sans la Grèce et l'Égypte. Toutes d'ailleurs la poésie des siècles où elles ont vécu. Cette poésie qui manque à Napoléon, car la veuve de sa grande armée est une plaisanterie de caserne, n'a pas manqué à la Révolution, qui a eu Madame Tallien. Maintenant, en France, où c'est à qui trônera, certes, il y a un trône vacant. À nous tous, nous pouvions faire une reine. Moi, j'aurais donné une tente à la torpille, car sa mère est trop authentiquement morte, au champ du déshonneur. Du Tillet lui aurait payé un hôtel, Lousteau une voiture, Rastignac des laquais, des Lupeaux un cuisinier, Finot des chapeaux. Finot ne put réprimer un mouvement en recevant cet épigramme à bout portant. Vernou lui aurait fait des réclames, Bixiou lui aurait fait ses mots. L'aristocratie serait venue s'amuser chez notre Ninon, où nous aurions appelé les artistes sous peine d'articles mortifères. Ninon II aurait été magnifique d'impertinence, écrasante de luxe. Elle aurait eu des opinions. On aurait lu chez elle quelques chefs-d'œuvre dramatiques défendus, qu'on aurait au besoin fait faire exprès. Elle n'aurait pas été libérale. Une courtisane est essentiellement monarchique. Ah, quelle perte! Elle devait embrasser tout son siècle. Elle aime avec un petit jeune homme. Lucien en fera quelques chiens de chasse. Aucune des puissances femelles que tu nommes n'a barboté dans la rue, dit Finot, et ce joli rat a roulé dans la fange. Comme la graine d'un lys dans son terreau, reprit Vernou. Elle s'y est embellie, elle y a fleuri. De là vient sa supériorité. Ne faut-il pas avoir tout connu pour créer le rire et la joie qui tiennent à tout? Il a raison, dit Lousteau, qui jusqu'alors avait observé sans parler. La torpille sait rire et fait rire. Cette science des grands auteurs et des grands acteurs appartient à ceux qui ont pénétré toutes les profondeurs sociales. À 18 ans, cette fille a déjà connu la plus haute opulence, la plus basse misère, les hommes à tous les étages. Elle tient comme une baguette magique, avec laquelle elle déchaîne les appétits brutaux, si violemment comprimés chez les hommes, qui ont encore du cœur, en s'occupant de politique ou de science, de littérature ou d'art. Il n'y a pas de femme dans Paris qui puisse dire comme elle à l'animal « Sors !» Et l'animal quitte sa loge, et il se roule dans les excès. Elle vous met à table jusqu'au menton, elle vous aide à boire, à fumer. Enfin, cette femme est le sel chanté par Rabelais, et qui, jeté sur la matière, l'anime et l'élève jusqu'aux merveilleuses régions de l'art. Sa robe déploie des magnificences inouïes, ses doigts laissent tomber à temps leurs pierreries, comme sa bouche les sourires. Elle donne à toute chose l'esprit de la circonstance. Son jargon pétille de traits piquants. Elle a le secret des onomatopées, les mieux colorées et les plus colorantes. Elle, tu perds 100 sous de feuilleton, dit Bixiou en interrompant Lousteau. La torpille est infiniment mieux que tout cela. Vous avez tous été plus ou moins ses amants. Nul de vous ne peut dire qu'elle a été sa maîtresse. Elle peut toujours vous avoir, vous ne l'aurez jamais. Vous forcez sa porte, vous avez un service à lui demander. Oh, elle est plus généreuse qu'un chef de brigand qui fait bien des affaires et plus dévouée que le meilleur camarade de collège, dit Blondet. On peut lui confier sa bourse et son secret. Mais ce qui me la faisait élire pour reine, c'est son indifférence bourbonienne pour le favori tombé. Elle est comme sa mère, beaucoup trop chère, dit des Lupeaux. La belle Hollandaise aurait avalé les revenus de l'archevêque de Tolède. Elle a mangé 2 notaires. Et nourrit Maxime de Trailles quand il était page, dit Bixiou. La torpille est trop chère, comme Raphaël, comme Carême, comme Taglioni, comme Laurence, comme Bouille, comme tous les artistes de génie étaient trop chers, dit Blondet. Jamais Esther n'a eu cette apparence de femme comme il faut, dit alors Rastignac, en montrant le masque à qui Lucien donnait le bras. Je parie pour Madame de Sérisy. Il n'y a pas de doute, reprit du Châtelet, et la fortune de Monsieur de Rubempré s'explique. Ah, l'Église sait choisir ses lévites. Quel joli secrétaire d'ambassade il fera, dit des Lupeaux. D'autant plus, reprit Rastignac, que Lucien est un homme de talent. Ces messieurs en ont eu plus d'une preuve, ajouta-t-il en regardant Blondet, Finot et Lousteau. Oui, le gars est taillé pour aller loin, dit Lousteau qui crevait de jalousie, d'autant plus qu'il a ce que nous nommons de l'indépendance dans les idées. C'est toi qui l'as formé, dit Vernou. Eh bien, répliqua Bixou en regardant des lupeaux, j'en appelle au souvenir de monsieur le secrétaire général et maître des requêtes. Ce masque est la torpille. Je gage un souper. Je tiens le pari, dit Châtelet, intéressé à savoir la vérité. Allons, des lupeaux, dit Finot. Voyez à reconnaître les oreilles de votre ancien rat. Il n'y a pas besoin de commettre un crime de lèse-masque, reprit Bixiou. La torpille et Lucien vont revenir jusqu'à nous en remontant le foyer. Je m'engage alors à vous prouver que c'est elle. Il est donc revenu sur l'eau, notre ami Lucien, dit Nathan qui se joignit au groupe. Je le croyais retourner dans l'Angoumois pour le reste de ses jours. A-t-il découvert quelque secret contre les Anglais ? Il a fait ce que tu ne feras pas de sitôt, répondit Rastignac. Il a tout payé. Le gros masque hocha la tête en signe d'assentiment. En se rangeant à son âge, un homme se dérange bien, il n'a plus d'audace, il devient rentier, reprit Nathan. Oh, celui-là sera toujours grand seigneur, et il y aura toujours en lui une hauteur d'idées qui le mettra au-dessus de bien des hommes soi-disant supérieurs, répondit Rastignac. En ce moment, journalistes, dandys, oisifs, tous examinés comme des maquignons examinent un cheval à vendre, le délicieux objet de leur pari. Ces juges, vieillis dans la connaissance des dépravations parisiennes, tous d'un esprit supérieur, et chacun à des titres différents, également corrompus, également corrupteurs, tous voués à des ambitions effrénées, habitués à tout supposer, à tout deviner, avaient les yeux ardemment fixés sur une femme masquée, une femme qui ne pouvait être déchiffrée que par eux. Eux, et quelques habitués du bal de l'opéra savaient seuls reconnaître, sous le long linceul du domino noir, sous le capuchon, sous le collet tombant, qui rendent les femmes méconnaissables, la rondeur des formes, les particularités du maintien et de la démarche, le mouvement de la taille, le port de la tête, les choses les moins saisissables aux yeux vulgaires et les plus faciles à voir pour eux. Malgré cette enveloppe informe, ils purent donc reconnaître le plus émouvant des spectacles, celui que présente à l'œil une femme animée par un véritable amour. Que ce fût la torpille, la duchesse de Maufrigneuse ou Madame de Sérisy, le dernier ou le premier échelon de l'échelle sociale, cette créature était une admirable création, l'éclair des rêves heureux. Ces vieux jeunes gens, aussi bien que ces jeunes vieillards, éprouvèrent une sensation si vive qu'ils envièrent à Lucien le privilège sublime de cette métamorphose de la femme en déesse. Le masque était là, comme s'il eût été seul avec Lucien. Il n'y avait plus pour cette femme 10 000 personnes, une atmosphère lourde et pleine de poussière. Non, elle était sous la voûte céleste des amours, comme les madones de Raphaël sont sous leur ovale filet d'or. Elle ne sentait point les coudoiements, la flamme de son regard partait par les deux trous du masque et se ralliait aux yeux de Lucien. Enfin, le frémissement de son corps semblait avoir pour principe le mouvement même de son ami. D'où vient cette flamme qui rayonne autour d'une femme amoureuse et qui la signale entre toutes? D'où vient cette légèreté de sylphide qui semble changer les lois de la pesanteur? Est-ce l'âme qui s'échappe? Le bonheur a-t-il des vertus physiques? L'ingénuité d'une vierge, les grâces de l'enfance, se trahissaient sous le domino. Quoique séparés et marchands, ces deux êtres ressemblaient à ces groupes de Flore et Zéphyr, savamment enlacés par les plus habiles statuaires. Mais c'était plus que de la sculpture, le plus grand des arts. Lucien et son joli domino rappelaient ces anges occupés de fleurs et d'oiseaux, et que le pinceau de John Bellini a mis sous les images de la virginité mère. Lucien et cette femme appartenaient à la fantaisie, qui est au-dessus de l'art comme la cause est au-dessus de l'effet. Quand cette femme, qui oubliait tout, fut à un pas du groupe, Bixiou cria « Esther !» La fortunée tourna vivement la tête, comme une personne qui s'entend appeler, reconnut le malicieux personnage, et baissa la tête comme un agonisant qui a rendu le dernier soupir. Un rire strident partit, et le groupe fondit au milieu de la foule, comme une troupe de mulots effrayés, qui du bord d'un chemin rentrent dans leur trou. Rastignac seul ne s'en alla pas plus loin qu'il ne le devait, pour ne pas avoir l'air de fuir les regards étincelants de Lucien. Il put admirer deux douleurs, également profondes, quoique voilées. D'abord, la pauvre torpille, abattue comme par un coup de foudre, puis le masque incompréhensible, le seul du groupe qui fut resté. Esther dit un mot à l'oreille de Lucien, au moment où ses genoux fléchirent, et Lucien disparut avec elle en la soutenant. Rastignac suivit du regard ce joli couple, en demeurant abîmé dans ses réflexions. D'où lui vient ce nom de torpille ? Lui dit une voix sombre, qui l'atteignit aux entrailles, car elle n'était plus déguisée. C'est bien lui qui s'est encore échappé, dit Rastignac à part. Tais-toi, ou je t'égorge, répondit le masque en prenant une autre voix. Je suis content de toi, tu as tenu ta parole. Aussi as-tu plus d'un bras à ton service. Sois désormais muet comme la tombe, et avant de te taire, réponds à ma demande. Eh bien, cette fille est si attrayante qu'elle aurait engourdi l'empereur Napoléon, et qu'elle engourdirait quelqu'un de plus difficile à séduire. Toi, répondit Rastignac en s'éloignant. Un instant, dit le masque, je vais te montrer que tu dois ne m'avoir vu jamais nulle part. L'homme se démasqua. Rastignac hésita pendant un moment, en ne trouvant rien, du hideux personnage qu'il avait jadis connu dans la maison Vauquer. Le diable vous a permis de tout changer en vous, moins vos yeux, qu'on ne saurait oublier, lui dit-il. La main de fer lui serra le bras, pour lui recommander un silence éternel. À 3 heures du matin, des Lupeaux et Finot trouvèrent l'élégant Rastignac à la même place, appuyé sur la colonne où l'avait laissé le terrible masque. Rastignac s'était confessé à lui-même. Il avait été le prêtre et le pénitent, le juge et l'accusé. Il se laissa emmener à déjeuner et revint chez lui parfaitement gris, mais taciturne. La rue de Langlade, de même que les rues adjacentes, dépare le palais royal et la rue de Rivoli. Cette partie, d'un des plus brillants quartiers de Paris, conservera longtemps la souillure qui ont laissé les monticules, produits par les immondices du vieux Paris, et sur lesquels il y eut autrefois des moulins. Ces rues étroites, sombres et boueuses, où s'exercent des industries peu soigneuses de leur dehors, prennent à la nuit une physionomie mystérieuse et pleine de contrastes. En venant des endroits lumineux de la rue Saint-Honoré, de la rue Neuve des Petits-Champs et de la rue de Richelieu, où se presse une foule incessante, où reluisent les chefs-d'œuvre de l'industrie, de la mode et des arts. Tout homme, à qui le Paris du soir est inconnu, serait saisi d'une terreur triste, en tombant dans le lacis de petites rues qui cerclent cette lueur reflétée jusque sur le ciel. Une ombre épaisse succède à des torrents de gaz. De loin en loin, un pâle réverbère jette sa lueur incertaine et fumeuse, qui n'éclaire plus certaines impasses noires. Les passants vont vite et sont rares. Les boutiques sont fermées. Celles qui sont ouvertes ont un mauvais caractère. C'est un cabaret malpropre et sans lumière. Une boutique de lingère qui vend de l'eau de Cologne. Un froid malsain pose sur vos épaules son manteau moite. Il passe peu de voitures. Il y a des coins sinistres, parmi lesquels se distingue la rue de Langlade, le débouché du passage Saint-Guillaume, et quelques tournants de rue. Le conseil municipal n'a pu rien faire encore pour laver cette grande léproserie, car la prostitution a depuis longtemps établi là son quartier général. Peut-être est-ce un bonheur pour le monde parisien que de laisser à ces ruelles leur aspect ordurier. En y passant pendant la journée, on ne peut se figurer ce que toutes ces rues deviennent à la nuit. Elles sont sillonnées par des êtres bizarres qui ne sont d'aucun monde. Les formes à demi nues et blanches meublent les murs. L'ombre est animée. Il se coule entre la muraille et le passant des toilettes qui marchent et qui parlent. Certaines portes entrebâillées se mettent à rire aux éclats. Il tombe dans l'oreille de ces paroles que Rabelais prétend s'être gelé et qui fondent. Des ritournelles sortent d'entre les pavés. Le bruit n'est pas vague, il signifie quelque chose. Quand il est rauque, c'est une voix. Mais s'il ressemble à un chant, il n'a plus rien d'humain. Il approche du sifflement. Il part souvent des coups de sifflet. Enfin, les talons de bottes ont je ne sais quoi de provoquant et de moqueur. Cet ensemble de choses donne le vertige. Les conditions atmosphériques y sont changées. On y a chaud en hiver et froid en été. Mais quelque temps qu'il fasse, cette nature étrange offre toujours le même spectacle. Le monde fantastique d'Hoffmann le Berlinois est là. Le caissier le plus mathématique n'y trouve rien de réel, après avoir repassé les détroits qui mènent aux rues honnêtes, où il y a des passants, des boutiques et des quinquets. Plus dédaigneuses ou plus honteuses que les reines et que les rois du temps passé, qui n'ont pas craint de s'occuper des courtisanes, l'administration ou la politique moderne n'ose plus envisager en face cette plaie des capitales. Certes, les mesures doivent changer avec les temps, et celles qui tiennent aux individus et à leur liberté sont délicates. Mais peut-être devrait-on se montrer large et hardi sur les combinaisons purement matérielles, comme l'air, la lumière, les locaux. Le moraliste, l'artiste et le sage administrateur regretteront les anciennes galeries de bois du Palais Royal, où se parquaient ces brebis qui viendront toujours où vont les promeneurs. Et ne vaut-il pas mieux que les promeneurs aillent où elles sont? Qu'est-il arrivé? Aujourd'hui, les parties les plus brillantes des boulevards, cette promenade enchantée, sont interdites le soir à la famille. La police n'a pas su profiter des ressources offertes sous ce rapport par quelques passages pour sauver la voie publique. La fille brisée par un mot au bal de l'opéra demeurait depuis un mois ou deux rue de Langlade dans une maison d'ignoble apparence. Accolée au mur d'une immense maison, cette construction mal plâtrée, sans profondeur et d'une hauteur prodigieuse, tire son jour de la rue et ressemble assez à un bâton de perroquet. Un appartement de deux pièces s'y trouve à chaque étage. Cette maison est desservie par un escalier mince, plaqué contre la muraille, et singulièrement éclairé par des châssis qui dessinent extérieurement la rampe, et où chaque palier est indiqué par un plomb, l'une des plus horribles particularités de Paris. La boutique et l'entresol appartenaient alors à un ferblantier. Le propriétaire demeure au premier. Les quatre autres étages étaient occupés par des grisettes très décentes qui obtenaient du propriétaire et de la portière une considération et des complaisances nécessitées par la difficulté de louer une maison si singulièrement bâtie et située. La destination de ce quartier s'explique par l'existence d'une assez grande quantité de maisons semblables à celle-ci, dont ne veut pas le commerce et qui ne peuvent être exploitées que par des industries désavouées, précaire ou sans dignité. À 3 heures de l'après-midi, la portière, qui avait vu Mademoiselle Esther ramenée mourante par un jeune homme à 2 heures du matin, venait de tenir conseil avec la grisette logée à l'étage supérieur, laquelle, avant de monter en voiture pour se rendre à quelques parties de plaisir, lui avait témoigné son inquiétude sur Esther. Elle ne l'avait pas entendu remuer. Esther dormait sans doute encore, mais ce sommeil semblait suspect. Seule dans sa loge, la portière regrettait de ne pouvoir aller s'enquérir de ce qui se passait au 4e étage, où se trouvait le logement de Mademoiselle Esther. Au moment où elle se décidait à confier au fils du ferblantier la garde de sa loge, espèce de niche pratiquée dans un enfoncement du mur, à l'entresol, un fiacre s'arrêta. Un homme, enveloppé dans un manteau de la tête aux pieds, avec une évidente intention de cacher son costume ou sa qualité, en sortit et demanda Mademoiselle Esther. La portière fut alors entièrement rassurée. Le silence et la tranquillité de la recluse lui semblèrent parfaitement expliqués. Lorsque le visiteur monta les degrés au-dessus de la loge, la portière remarqua les boucles d'argent qui décoraient ses souliers. Elle crut avoir aperçu la frange noire d'une ceinture de soutane. Elle descendit et questionna le cocher, qui répondit sans parler, et la portière comprit encore. Le prêtre frappa, ne reçut aucune réponse, entendit de légers soupirs et força la porte d'un coup d'épaule, avec une vigueur que lui donnait sans doute la charité, mais qui, chez tout autre, aurait paru être de l'habitude. Il se précipita dans la seconde pièce et vit, devant une Sainte Vierge en plâtre colorié, la pauvre Esther agenouillée, ou mieux tombée sur elle-même, les mains jointes, la grisette expirée. Un réchaud de charbon consumé disait l'histoire de cette terrible matinée. Le capuchon et le mantelet du domino se trouvaient à terre. Le lit n'était pas défait. La pauvre créature, atteinte au cœur d'une blessure mortelle, avait tout disposé sans doute à son retour de l'opéra. Une mèche de chandelle, figée dans la mare que contenait la bobèche du chandelier, apprenait combien Esther avait été absorbée par ses dernières réflexions. Un mouchoir, trempé de larmes, prouvait la sincérité de ce désespoir de Madeleine, dont la pose classique était celle de la courtisane irreligieuse. Ce repentir absolu fit sourire le prêtre. Inhabile à mourir, Esther avait laissé sa porte ouverte, sans calculer que l'air des deux pièces voulait une plus grande quantité de charbon pour devenir irrespirable. La vapeur l'avait seulement étourdie. L'air frais venu de l'escalier la rendit par degrés au sentiment de ces mots. Le prêtre demeura debout, perdu dans une sombre méditation, sans être touché de la divine beauté de cette fille, examinant ses premiers mouvements comme si c'eût été quelque animal. Ses yeux allaient de ce corps affaissé à des objets indifférents, avec une apparente indifférence. Il regarda le mobilier de cette chambre, dont le carreau rouge, frotté, froid, était mal caché par un méchant tapis qui montrait la corde. Une couchette en bois peint, d'un vieux modèle, enveloppée de rideaux en calicot jaune à rosaces rouges, un seul fauteuil et deux chaises également en bois peint, les couvertes du même calicot qui avait aussi fourni les draperies de la fenêtre. Un papier à fond gris moucheté de fleurs, mais noirci par le temps et gras. Une table à ouvrage en acajou. La cheminée encombrée d'ustensiles de cuisine de la plus vile espèce. De falourdes entamées. Un chambrol en pierre, sur lequel étaient çà et là quelques verroteries mêlées à des bijoux, à des ciseaux. Une pelote salie. Des gants blancs et parfumés. Un délicieux chapeau jeté sur le pot à eau. Un châle de terneau qui bouchait la fenêtre, une robe élégante pendue à un clou, un petit canapé sec, sans coussin, d'ignobles socs cassés et des souliers mignons, des brodequins à faire envie à une reine, des assiettes de porcelaine commune et bréchée où se voyaient les restes du dernier repas et encombrés de couverts en maïchor, l'argenterie du pauvre, à Paris. Un corbillon plein de pommes de terre et du linge à blanchir, puis par-dessus, un frais bonnet de gaze. Une mauvaise armoire à glace, ouverte et déserte, sur les tablettes de laquelle se voyaient des reconnaissances du Mont de Piété. Tel était l'ensemble de choses lugubres et joyeuses, misérables et riches, qui frappaient le regard. Ces vestiges du luxe dans ces tessons, ce ménage, si bien approprié à la vie bohémienne de cette fille, abattue dans ses linges, défaits, comme un cheval mort dans son harnais, sous son brancard cassé, empêtré dans ses guides. Ce spectacle étrange, faisait-il penser le prêtre? Se disait-il qu'au moins cette créature égarée devait être désintéressée pour accoupler une telle pauvreté avec l'amour d'un jeune homme riche? Attribuait-il le désordre du mobilier au désordre de la vie? Éprouvait-il de la pitié, de l'effroi? Sa charité s'émouvait-elle? Qu'il eût vu, les bras croisés, le front soucieux, les lèvres crispées, l'œil âpre, l'aurait cru préoccupé de sentiments sombres, haineux, de réflexions qui se contrariaient, de projets sinistres. Il était certes insensible aux jolies rondeurs d'un sein presque écrasé sous le poids du buste fléchi et aux formes délicieuses de la Vénus accroupie qui paraissait sous le noir de la jupe, tant la mourante était rigoureusement ramassée sous elle-même. L'abandon de cette tête, qui, vue par derrière, offrait au regard la nuque blanche, molle et flexible, les belles épaules, d'une nature hardiment développée, ne l'émouvait point. Il ne relevait pas Esther, Il ne semblait pas entendre les aspirations déchirantes par lesquelles se trahissait le retour à la vie. Il fallut un sanglot horrible et le regard effrayant que lui lança cette fille pour qu'il daignât la relever et la porter sur le lit avec une facilité qui révélait une force prodigieuse. « Lucien, » dit-elle en murmurant, « l'amour revient, la femme n'est pas loin, » dit le prêtre avec une sorte d'amertume. La victime des dépravations parisiennes aperçut alors le costume de son libérateur et se dit avec le sourire de l'enfant quand il met la main sur une chose enviée, « Je ne mourrai donc pas sans m'être réconciliée avec le ciel. Vous pourrez expier vos fautes, » dit le prêtre en lui mouillant le front avec de l'eau et lui faisant respirer une burette de vinaigre qu'il trouva dans un coin. « Je sens que la vie, au lieu de m'abandonner, afflue en moi, » dit-elle après avoir reçu les soins du prêtre et en lui exprimant sa gratitude par des gestes pleins de naturel. Cette attrayante pantomime que les grâces auraient déployée pour séduire justifiait parfaitement le surnom de cette étrange fille. « Vous sentez-vous mieux ?» demanda l'ecclésiastique en lui donnant à boire un verre d'eau sucrée. Cet homme semblait être au fait de ces singuliers ménages. Il en connaissait tout. Il était là comme chez lui. Ce privilège d'être partout chez soi n'appartient qu'au roi, aux filles et aux voleurs. « Quand vous serez tout à fait bien, » reprit ce singulier prêtre après une pause, « vous me direz les raisons qui vous ont porté à commettre votre dernier crime, ce suicide commencé. » « Mon histoire est bien simple, mon père, » répondit-elle. Il y a 3 mois, je vivais dans le désordre où je suis née. J'étais la dernière des créatures et la plus infâme. Maintenant, je suis seulement la plus malheureuse de toutes. Permettez-moi de ne rien vous raconter de ma pauvre mère, morte assassinée, par un capitaine, dans une maison suspecte, dit le prêtre en interrompant sa pénitente. Je connais votre origine et sais que si une personne de votre sexe « peut jamais être excusé de mener une vie honteuse. C'est vous, à qui les bons exemples ont manqué. Hélas, je n'ai pas été baptisé et n'ai reçu les enseignements d'aucune religion. Tout est donc encore réparable, reprit le prêtre, pourvu que votre foi, votre repentir soit sincère et sans arrière-pensée. Lucien et Dieu remplissent mon cœur, dit-elle avec une touchante ingénuité. Vous auriez pu dire Dieu et Lucien, répliqua le prêtre en souriant. Vous me rappelez l'objet de ma visite. N'omettez rien de ce qui concerne ce jeune homme. Vous venez pour lui, demanda-t-elle avec une expression amoureuse qui eût attendri tout autre prêtre. Oh, il s'est douté du coup. Non, répondit-il. Ce n'est pas de votre mort, mais de votre vie que l'on s'inquiète. Allons. « Expliquez-moi vos relations. »« En un mot, » dit-elle. La pauvre fille tremblait au ton brusque de l'ecclésiastique, mais en femme que la brutalité ne surprenait plus depuis longtemps. « Lucien et Lucien, » reprit-elle, « le plus beau jeune homme et le meilleur des êtres vivants. Mais si vous le connaissez, mon amour doit vous sembler bien naturel. Je l'ai rencontré par hasard. Il y a 3 mois, à la porte Saint-Martin, où j'étais allée un jour de sortie, car nous avions un jour par semaine dans la maison de Madame Ménardy, où j'étais. Le lendemain, vous comprenez bien que je me suis affranchie sans permission. L'amour était entré dans mon cœur et m'avait si bien changée qu'en revenant du théâtre, je ne me reconnaissais plus moi-même. Je me faisais horreur. Jamais Lucien n'a pu rien savoir. Au lieu de lui dire où j'étais, je lui ai donné l'adresse de ce logement, où demeurait alors une de mes amies, qui a eu la complaisance de me le céder. Je vous jure, ma parole sacrée, il ne faut point jurer. Est-ce donc jurer que de donner sa parole sacrée? Eh bien, depuis ce jour, j'ai travaillé dans cette chambre, comme une perdue, à faire des chemises à 28 sous de façon, afin de vivre d'un travail honnête. Pendant 1 mois, je n'ai mangé que des pommes de terre, pour rester sage et digne de Lucien. qui m'aime et me respecte comme la plus vertueuse des vertueuses. J'ai fait ma déclaration en forme à la police pour reprendre mes droits et je suis soumise à 2 ans de surveillance. Eux, qui sont si faciles pour vous inscrire sur les registres d'infamie, deviennent d'une excessive difficulté pour vous enrayer. Tout ce que je demandais au ciel était de protéger ma résolution. J'aurai 19 ans au mois d'avril. À cet âge, il y a de la ressource. Il me semble à moi que je ne suis née qu'il y a 3 mois. Je priais le bon Dieu tous les matins et lui demandais de permettre que jamais Lucien ne connût ma vie antérieure. J'ai acheté cette Vierge que vous voyez. Je la priais à ma manière, vu que je ne sais point de prière. Je ne sais ni lire ni écrire. Je ne suis jamais entrée dans une église. Je n'ai jamais vu le bon Dieu qu'aux processions, par curiosité. Que dites-vous donc à la Vierge ? Je lui parle, comme je parle à Lucien, avec ses élans d'âme qui le font pleurer. Ah, il pleure ! De joie ! Dit-elle vivement. Pauvre chat, nous nous entendons si bien que nous avons une même âme. Il est si gentil, si caressant, si doux de cœur, d'esprit et de manière. Il dit qu'il est poète. Moi, je dis qu'il est Dieu. Pardon, mais vous autres prêtres, vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. Il n'y a d'ailleurs que nous qui connaissions assez les hommes pour apprécier un Lucien. Un Lucien, voyez-vous, est aussi rare qu'une femme sans péché. Quand on le rencontre, on ne peut plus aimer que lui. Voilà. Mais à un pareil être, il faut sa pareille. Je voulais donc être digne d'être aimée par mon Lucien. De là est venu mon malheur. Hier, à l'opéra, j'ai été reconnue par des jeunes gens qui n'ont pas plus de cœur qu'il n'y a de pitié chez les tigres. Encore m'entendrai-je avec un tigre. Le voile d'innocence que j'avais est tombé. Leurs rires m'ont fendu la tête et le cœur. Ne croyez pas m'avoir sauvée. Je mourrai de chagrin. Votre voile d'innocence, dit le prêtre. Vous avez donc traité Lucien avec la dernière rigueur. Ô mon père, comment vous qui le connaissez, me faites-vous une semblable question ? Répondit-elle en lui jetant un sourire superbe. On ne résiste pas à un dieu. Ne blasphémez pas, dit l'ecclésiastique d'une voix douce. Personne ne peut ressembler à Dieu. L'exagération va mal au véritable amour. Vous n'aviez pas pour votre idole un amour pur et vrai. Si vous aviez éprouvé le changement que vous vous vantez d'avoir subi, vous eussiez acquis les vertus qui sont l'apanage de l'adolescence. Vous auriez connu les délices de la chasteté, les délicatesses de la pudeur, ces deux gloires de la jeune fille. Vous n'aimez pas. Esther fit un geste d'effroi que vit le prêtre et qui n'ébranla point l'impassibilité de ce confesseur. Oui. Vous l'aimez pour vous et non pour lui, pour les plaisirs temporels qui vous charment, et non pour l'amour en lui-même. Si vous vous en êtes emparé ainsi, vous n'aviez pas ce tremblement sacré qu'inspire un être sur qui Dieu a mis le cachet des plus adorables perfections. Avez-vous songé que vous le dégradiez par votre impureté passée, que vous alliez corrompre un enfant par ces épouvantables délices qui vous ont mérité votre surnom, glorieux d'infamie? Vous avez été inconséquente avec vous-même et avec votre passion d'un jour. D'un jour, répéta-t-elle en levant les yeux. De quel nom appeler un amour qui n'est pas éternel, qui ne nous unit pas, jusque dans l'avenir des chrétiens, avec celui que nous aimons? Ah, je veux être catholique, cria-t-elle d'un ton sourd et violent, qui lui eût obtenu sa grâce de notre Sauveur. Est-ce une fille qui n'a reçu ni le baptême de l'Église, ni celui de la science, qui ne sait ni lire, ni écrire, ni prier, qui ne peut faire un pas sans que les pavés ne se lèvent pour l'accuser, remarquable seulement par le fugitif privilège d'une beauté que la maladie enlèvera demain peut-être. Est-ce cette créature avilie, dégradée, et qui connaissait sa dégradation? Ignorante et moins aimante, vous eussiez été plus excusable. Est-ce la proie future du suicide et de l'enfer qui pouvait être la femme de Lucien de Rubempré? Chaque phrase était un coup de poignard qui entrait à fond de cœur. À chaque phrase, les sanglots croissants, les larmes abondantes de la fille au désespoir attestaient la force avec laquelle la lumière entrait à la fois dans son intelligence pure, comme celle d'un sauvage, dans son âme enfin réveillée, dans sa nature, sur laquelle la dépravation avait mis une couche de glace boueuse qui fondait alors au soleil de la foi. Pourquoi ne suis-je pas morte ? Était la seule idée qu'elle exprimait, au milieu des torrents d'idées qui ruisselaient dans sa cervelle, en la ravageant. Ma fille, dit le terrible juge, il est un amour qui ne s'avoue point devant les hommes, et dont les confidences sont reçues avec des sourires de bonheur par les anges. Lequel ? L'amour sans espoir, quand il inspire la vie, quand il y met le principe des dévouements, quand il ennoblit tous les actes par la pensée d'arriver à une perfection idéale. Oui, les anges approuvent cet amour. Ils mènent à la connaissance de Dieu. Se perfectionner sans cesse pour se rendre digne de celui qu'on aime, lui faire 1000 sacrifices secrets, l'adorer de loin, donner son sang goutte à goutte, lui immoler son amour-propre, ne plus avoir ni orgueil ni colère avec lui, lui dérober jusqu'à la connaissance des jalousies atroces qui les chauffent au cœur, lui donner tout ce qu'il souhaite, fût-ce à notre détriment, aimer ce qu'il aime, avoir toujours le visage tourné vers lui pour le suivre sans qu'il le sache. Cet amour, la religion voulut pardonner. Il n'offensait ni les lois humaines, ni les lois divines, et conduisait dans une autre voie que celle de vos sales voluptés. En entendant cet horrible arrêt, exprimé par un mot, et quel mot, et de quel accent fut-il accompagné, Esther fut en proie à une défiance assez légitime. Ce mot fut comme un coup de tonnerre qui trahit un orage près de fondre. Elle regarda ce prêtre, et il lui prit le saisissement d'entrailles qui tord le plus courageux en face d'un danger imminent et soudain. Aucun regard n'aurait pu lire ce qui se passait alors en cet homme. Mais pour les plus hardis, il y aurait eu plus à frémir qu'à espérer à l'aspect de ses yeux, jadis clairs et jaunes comme ceux des tigres, et sur lesquels les austérités et les privations avaient mis un voile semblable à celui qui se trouve sur les horizons au milieu de la canicule. La terre est chaude et lumineuse, mais le brouillard la rend indistincte, vaporeuse, elle est presque invisible. Une gravité toute espagnole, des plis profonds, que les 1000 cicatrices d'une horrible petite vérole rendaient hideux, et semblables à des ornières déchirées, sillonnaient sa figure olivâtre et cuite par le soleil. La dureté de cette physionomie ressortait d'autant mieux qu'elle était encadrée par la sèche perruque du prêtre, qui ne se soucie plus de sa personne, une perruque pelée et d'un noir rouge à la lumière. Son buste d'athlète, ses mains de vieux soldat, sa carrure, ses fortes épaules appartenaient à ces cariatides que les architectes du Moyen-Âge ont employées dans quelques palais italiens et que rappellent imparfaitement celles de la façade du théâtre de la Porte Saint-Martin. Les personnes les moins clairvoyantes eussent pensé que les passions les plus chaudes ou des accidents peu communs avaient jeté cet homme dans le sein de l'Église. Certes, les plus étonnants coups de foudre avaient pu seuls le changer, si toutefois une pareille nature était susceptible de changement. Les femmes qui ont mené la vie, alors si violemment répudiée par Esther, arrivent à une indifférence absolue sur les formes extérieures de l'homme. Elles ressemblent aux critiques littéraires d'aujourd'hui, qui sous quelque rapport peut leur être comparée, et qui arrivent à une profonde insouciance des formules d'art. Il a tant lu d'ouvrages, il en voit tant passer, il s'est tant accoutumé aux pages écrites, il a subi tant de dénouements, il a vu tant de drames, il a tant fait d'articles sans dire ce qu'il pensait, en trahissant si souvent la cause de l'art, en faveur de ses amitiés et de ses inimitiés, qu'il arrive au dégoût de toutes choses, et continue néanmoins à juger. Il faut un miracle pour que cet écrivain produise une œuvre. De même que l'amour pur et noble exige un autre miracle pour éclore dans le cœur d'une courtisane. Le ton et les manières de ce prêtre, qui semblait échappé d'une toile de Zurbaran, parurent si hostiles à cette pauvre fille, à qui la forme importait peu, qu'elle se crut moins l'objet d'une sollicitude que le sujet nécessaire d'un plan. Sans pouvoir distinguer entre le patelinage de l'intérêt personnel et l'onction de la charité, car il faut bien être sur ses gardes pour reconnaître la fausse monnaie que donne un ami. Elle se sentit comme entre les griffes d'un oiseau monstrueux et féroce qui tombait sur elle après avoir plané longtemps. Et dans son effroi, elle dit ces paroles d'une voix alarmée. « Je croyais les prêtres chargés de nous consoler, et vous m'assassinez !» À ce cri de l'innocence, l'ecclésiastique laissa échapper un geste et fit une pause. Il se recueillit avant de répondre. Pendant cet instant, ces deux personnages, si singulièrement réunis, s'examinèrent à la dérobée. Le prêtre comprit la fille, sans que la fille pût comprendre le prêtre. Il renonça sans doute à quelque dessein qui menaçait la pauvre Esther, et revint à ses idées premières. « Nous sommes les médecins des âmes, » dit-il d'une voix douce, « et nous savons quels remèdes conviennent à leur maladie. Il faut pardonner beaucoup à la misère, » dit Esther. Elle crut s'être trompée, se coula à bas de son lit, se prosterna aux pieds de cet homme, baisa sa soutane avec une profonde humilité, et releva vers lui des yeux baignés de larmes. « Je croyais avoir beaucoup fait, » dit-elle. « Écoutez, mon enfant, votre fatale réputation a plongé dans le deuil la famille de Lucien. On craint, et avec quelque justesse, que vous ne l'entraîniez dans la dissipation, dans un monde de folie. C'est vrai, c'est moi qui l'avais amené au bal pour l'intriguer. Vous êtes assez belle pour qu'il veuille triompher en vous aux yeux du monde, vous montrer avec orgueil et faire de vous comme un cheval de parade. S'il ne dépensait que son argent, mais il dépensera son temps, sa force, il perdra le goût des belles destinées qu'on veut lui faire. Au lieu d'être un jour ambassadeur, riche, admiré, glorieux, il aura été, comme tant de ces gens débauchés qui ont noyé leur talent dans la boue de Paris, l'amant d'une femme impure. Quant à vous, vous auriez repris plus tard votre première vie, après être un moment monté dans une sphère élégante, car vous n'avez point en vous cette force que donne une bonne éducation, pour résister aux vices et penser à l'avenir. Vous n'auriez pas mieux rompu avec vos compagnes que vous n'avez rompu avec les gens qui vous ont fait honte à l'opéra ce matin. Les vrais amis de Lucien, alarmés de l'amour que vous lui inspirez, ont suivi ses pas, ont tout appris. Plein d'épouvante, ils m'ont envoyé vers vous pour sonder vos dispositions et décider de votre sort. Mais s'ils sont assez puissants pour débarrasser la voix de ce jeune homme d'une pierre d'achoppement, ils sont miséricordieux. Sachez-le, ma fille, une personne aimée de Lucien a des droits à leur respect, comme un vrai chrétien adore la fange où par hasard rayonne la lumière divine. Je suis venu pour être l'organe de la pensée bienfaisante. Mais si je vous eusse trouvé entièrement perverse et armée d'effronterie, d'astuces, corrompue jusqu'à la moelle, sourde à la voix du repentir, je vous eusse abandonné à leur colère. Cette libération civile et politique, si difficile à obtenir, que la police a raison de tant retarder dans l'intérêt de la société même, et que je vous ai entendu souhaiter avec l'ardeur des vrais repentirs, « La voici, » dit le prêtre, en tirant de sa ceinture un papier de forme administrative. « On vous a vu hier. Cette lettre d'avis est datée d'aujourd'hui. Vous voyez combien sont puissants les gens que Lucien intéresse. » À la vue de ce papier, les tremblements convulsifs que cause un bonheur inespéré agitèrent si ingénument Esther qu'elle eut sur les lèvres un sourire fixe qui ressemblait à celui des insensés. Le prêtre s'arrêta, regarda cet enfant pour voir si privé de l'horrible force que les gens corrompus tirent de leur corruption même, et revenu à sa frêle et délicate nature primitive, elle résisterait à tant d'impressions. Courtisane, trompeuse, Esther eût joué la comédie. Mais redevenue innocente et vraie, elle pouvait mourir, comme un aveugle opéré peut reperdre la vue en se trouvant frappé par un jour trop vif. Cet homme vit donc en ce moment la nature humaine à fond, mais il resta dans un calme terrible par sa fixité. C'était une alpe froide, blanche et voisine du ciel, inaltérable et sourcilleuse, au flanc de granit, et cependant bienfaisante. Les filles sont des êtres essentiellement mobiles, qui passent en raison de la défiance la plus hébétée à une confiance absolue. Elles sont sous ce rapport au-dessous de l'animal. Extrêmes en tout, dans leur joie, dans leur désespoir, dans leur religion, dans leur irréligion, presque toutes deviendraient folles si la mortalité qui leur est particulière ne les décimait, et si d'heureux hasards n'élevaient quelques-unes d'entre elles au-dessus de la fange où elles vivent. Pour pénétrer jusqu'au fond des misères de cette horrible vie, il faudrait avoir vu jusqu'où la créature peut aller dans la folie sans y rester, en admirant la violente extase de la torpille aux genoux de ce prêtre. La pauvre fille regardait le papier libérateur avec une expression que Dante a oubliée et qui surpassait les inventions de son enfer. Mais la réaction vint avec les larmes. Esther se releva, jeta ses bras autour du cou de cet homme, penchant la tête sur son sein, y versa des pleurs, baisa la rude étoffe qui couvrait ce cœur d'acier et sembla vouloir y pénétrer. Elle saisit cet homme, lui couvrit les mains de baisers. Elle employa, mais dans une sainte effusion de reconnaissance, les chatteries de ses caresses, lui prodigua les noms les plus doux, lui dit, au travers de ses phrases sucrées, mille et mille fois, « Donnez-le-moi !» avec autant d'intonations différentes. Elle l'enveloppa de ses tendresses, le couvrit de ses regards, avec une rapidité qui le saisit sans défense. Enfin, elle finit par engourdir sa colère. Le prêtre connut comment cette fille avait mérité son surnom. Il comprit combien il était difficile de résister à cette charmante créature. Il devina tout à coup l'amour de Lucien et ce qui devait avoir séduit le poète. Une passion semblable cache, entre mille attraits, un hameçon lancéolé qui pique surtout l'âme élevée des artistes. Ces passions, inexplicables pour la foule, sont parfaitement expliquées par cette soif du beau idéal qui distingue les êtres créateurs. N'est-ce pas ressembler un peu aux anges chargés de ramener les coupables à des sentiments meilleurs? N'est-ce pas créer que de purifier un pareil être? Quel allèchement que de mettre d'accord la beauté morale et la beauté physique? Quelle jouissance d'orgueil si l'on réussit? Quelle belle tâche que celle qui n'a d'autre instrument que l'amour! Ces alliances, illustrées d'ailleurs par l'exemple d'Aristote, de Socrate, de Platon, d'Alcibiade, de Cétégus, de Pompée, et si monstrueuses aux yeux du vulgaire, sont fondées sur le sentiment qui a porté Louis XIV à bâtir Versailles, qui jette les hommes dans toutes les entreprises ruineuses. Convertir les miasmes d'un marais en un monceau de parfums entouré d'eau vive, mettre un lac sur une colline, comme fit le prince de Conti à Nointel, ou les vues de la Suisse à Cassan, comme le fermier général Bergeret. Enfin, c'est l'art qui fait irruption dans la morale. Le prêtre, honteux d'avoir cédé à cette tendresse, repoussa vivement Esther, qui s'assit honteuse aussi, car il lui dit « Vous êtes toujours courtisane !» Et il remit froidement la lettre dans sa ceinture. Comme un enfant qui n'a qu'un désir en tête, Esther ne cessa de regarder l'endroit de la ceinture où était le papier. « Mon enfant, reprit le prêtre après une pause, votre mère était juive et vous n'avez pas été baptisée, mais vous n'avez pas non plus été menée à la synagogue. Vous êtes dans les limbes religieuses où sont les petits-enfants. » « Les petits-enfants, répéta-t-elle d'une voix attendrie, comme vous êtes dans les cartons de la police, un chiffre en dehors des êtres sociaux, dit en continuant le prêtre impassible. Si l'amour, vu par une échappée, vous a fait croire il y a 3 mois que vous naissiez, vous devez sentir que depuis ce jour, vous êtes vraiment en enfance. Il faut donc vous conduire comme si vous étiez une enfant. Vous devez changer entièrement, et je me charge de vous rendre méconnaissable. D'abord, vous oublierez Lucien. La pauvre fille eut le cœur brisé par cette parole. Elle leva les yeux sur le prêtre et fit un signe de négation. Elle fut incapable de parler, en retrouvant encore le bourreau dans le sauveur. « Vous renoncerez à le voir. Du moins, reprit-il, je vous conduirai dans une maison religieuse, où les jeunes filles des meilleures familles reçoivent leur éducation. Vous y deviendrez catholique. Vous y serez instruite dans la pratique des exercices chrétiens. Vous y apprendrez la religion. Vous pourrez en sortir une jeune fille accomplie, chaste, pure, bien élevée. Si... » Cet homme leva le doigt et fit une pause. « Si, reprit-il, vous vous sentez la force de laisser ici la torpille. »« Ah ! » cria la pauvre enfant, pour qui chaque parole avait été comme la note d'une musique, au son de laquelle les portes du paradis se fussent lentement ouvertes. « Ah ! S'il était possible de verser ici tout mon sang et d'en prendre un nouveau !» Écoutez-moi, elle se tut. Votre avenir dépend de la puissance de votre oubli. Songez à l'étendue de vos obligations. Une parole, un geste qui décèlerait la torpille, tue la femme de Lucien. Un mot dit en rêve, une pensée involontaire, un regard immodeste, un mouvement d'impatience, un souvenir de dérèglement, une omission, un signe de tête qui révélerait ce que vous savez, ou ce qui a été su pour votre malheur. « Allez, allez, mon père !» dit la fille avec une exaltation de sainte, marcher avec des souliers de fer rouge et sourire, vivre vêtue d'un corset armé de pointes, et conserver la grâce d'une danseuse, manger du pain saupoudré de cendres, boire de l'absinthe, tout sera doux, facile !» Elle retomba sur ses genoux. Elle baisa les souliers du prêtre, elle y fondit en larmes et les mouilla. Elle étreignit les jambes et s'y colla, murmurant des mots insensés au travers des pleurs que lui causait la joie. Ses beaux et admirables cheveux blonds ruisselèrent et firent comme un tapis sous les pieds de ce messager céleste qu'elle trouva sombre et dur quand, en se relevant, elle le regarda. « En quoi vous ai-je offensé ? » dit-elle tout effrayée. « J'ai entendu parler d'une femme, comme moi, qui avait lavé de parfum les pieds de Jésus-Christ. Hélas, la vertu m'a faite si pauvre que je n'ai plus que mes larmes à vous offrir. Ne m'avez-vous pas entendu ? » répondit-il d'une voix cruelle. « Je vous dis qu'il faut pouvoir sortir de la maison où je vous conduirai, si bien changé au physique et au moral, que nul de ceux ou de celles qui vous ont connu ne puisse vous crier « Esther !» et vous faire retourner la tête. Hier, l'amour ne vous avait pas donné la force de si bien enterrer la fille de joie qu'elle ne reparut jamais. Elle reparaît encore dans une adoration qui ne va qu'à Dieu. « Ne vous a-t-il pas envoyé vers moi ? » dit-elle. « Si durant votre éducation, vous étiez aperçu de Lucien, tout serait perdu, » reprit-il. « Songez-y bien. »« Qui le consolera ? » dit-elle. « De quoi le consoliez-vous ? » demanda le prêtre, d'une voix où, pour la première fois de cette scène, il y eut un tremblement nerveux. « Je ne sais pas. Il est souvent venu triste. »« Triste, » reprit le prêtre. « Il vous a dit pourquoi ?»« Jamais, » répondit-elle. « Il était triste d'aimer une fille comme vous, » s'écria-t-il. « Hélas, il devait l'être. » reprit-elle avec une humilité profonde. « Je suis la créature la plus méprisable de mon sexe, et je ne pouvais trouver grâce à ses yeux que par la force de mon amour. Cet amour doit vous donner le courage de m'obéir aveuglément. Si je vous conduisais immédiatement dans la maison où se fera votre éducation, ici tout le monde dirait à Lucien que vous vous êtes en allé. Aujourd'hui dimanche, avec un prêtre, il pourrait être sur votre voie. Dans 8 jours, la portière, ne me voyant pas revenir, m'aura pris pour ce que je ne suis pas. Donc un soir, comme d'aujourd'hui en 8, à 7 heures, Vous sortirez furtivement et vous monterez dans un fiacre qui vous attendra en bas de la rue des Frondeurs. Pendant ces 8 jours, évitez Lucien, trouvez des prétextes, faites-lui défendre la porte. Et quand il viendra, montez chez une amie. Je saurai si vous l'avez revu. Et dans ce cas, tout est fini. Je ne reviendrai même pas. Ces 8 jours vous sont nécessaires pour vous faire un trousseau décent et pour quitter votre mine de prostituée, dit-il en déposant une bourse sur la cheminée. Il y a dans votre air, dans vos vêtements, ce je ne sais quoi, si bien connu des Parisiens, qui leur dit ce que vous êtes. N'avez-vous jamais rencontré par les rues, sur les boulevards, une modeste et vertueuse jeune personne marchant en compagnie de sa mère? Oh oui, pour mon malheur, la vue d'une mère et de sa fille est un de nos plus grands supplices. Elle réveille des remords cachés dans les replis de nos cœurs et qui nous dévorent. Je ne sais que trop ce qui me manque. Eh bien, vous savez comment vous devez être dimanche prochain, dit le prêtre en se levant. Oh, dit-elle, apprenez-moi une vraie prière avant de partir, afin que je puisse prier Dieu. C'était une chose touchante que de voir ce prêtre faisant répéter à cette fille l'Ave Maria et le Pater Noster en français. « C'est bien beau, » dit Esther, quand elle eut une fois répété sans faute ces deux magnifiques et populaires expressions de la foi catholique. « Comment vous nommez-vous ? » demanda-t-elle au prêtre quand il lui dit adieu. « Carlos Herrera, je suis espagnol et banni de mon pays. » Esther lui prit la main et la baisa. Ce n'était plus une courtisane, mais un ange qui se relevait d'une chute.